sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est maintenant les livres ont la parole avec Jean Darrot, qui reçoit un invité aujourd'hui, comme souvent, oui. Le mercredi. Bonjour Jean.
Bonjour à tout le monde. Alors effectivement, on reçoit aujourd'hui un invité particulier parce qu'il a plusieurs casquettes. Hein, on dit toujours on reçoit un éditeur ou un libraire ou un auteur. Cette fois-ci, on reçoit Bernard Loyer, qui est à la fois auteur, puisqu'il a publié un nombre certain de livres. Et puis, il est aussi, et il a été libraire dans sa vie. Il a eu plusieurs choses. Et puis, il est en plus aussi naturaliste, ce qui fait qu'il a fait un certain nombre de livres sur ces sujets-là. Voilà, ben on le retrouve tout de suite. Hein. Donc, l'émission, ben, ça sera la première partie avec notre invité. Et puis après, ben, on parlera d'une petite maison d'édition. On aura les coups de cœur des libraires. Et pour finir, ben, il y aura ce qu'on appelle toujours le droit d'auteur. Hein. Et ben, on va dire bonjour à Bernard. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Hein. On va passer un tout petit peu de musique après cette introduction. Et on se retrouve juste après avec notre invité Bernard Loyer. Eh bien, rebonjour. Donc, notre invité aujourd'hui, c'est Bernard Loyer, qui est à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, auteur, parce qu'il a écrit un certain nombre de livres. Et puis, il est libraire, et il l'a été aussi, hein, il y a trop longtemps. Et il est naturaliste. Et il a fait plein de choses dont on va sur lesquelles on va le questionner. Alors, Bernard, vous avez commencé une carrière il y a très, très longtemps. Et vous avez commencé dans le livre... Par quoi, en fin de compte? Si je me rappelle, vous avez commencé par travailler dans une librairie.
Ah oui, oui, oui.
Avant d'écrire?
Pas avant d'écrire.
Pas avant d'écrire.
J'écris depuis très très longtemps, mais sans être publié. Hein.
D'accord.
Et j'ai commencé effectivement une carrière dans le livre en 1968.
Oui, et ça c'était où?
Et c'était aux Presses universitaires de France, à Paris, place de la Sorbonne.
Place de la Sorbonne.
Et donc là, j'ai été employé de librairie, j'ai passé à l'époque c'était un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle, ensuite un brevet professionnel à l'école de librairie qui était l'école unique hein, pour toute la France, donc boulevard Saint-Germain. C'était une école qui était montée en fait par les syndicats d'éditeurs. Donc j'ai passé un brevet professionnel à ce moment-là. Et je suis devenu employé de librairie pendant quelques années dans cette jolie maison.
Oui, mais c'est là qu'on apprend vraiment le métier, parce que vous êtes un vrai professionnel du livre, on peut dire, parce que vous avez une formation, Et vous avez commencé par, je dirais, la chose la plus simple qui était employée dans une librairie.
Ah oui, 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 oui. J'ai tenu, je faisais des vitrines, je faisais de la vente, et j'étais spécialisé dans le rayon des sciences humaines parce que cette librairie qui était une grosse librairie à l'époque avait évidemment plusieurs étages, plusieurs rayons. Donc moi, j'étais pas partout, hein. J'étais uniquement dans le rayon des sciences humaines. Donc tout ce qui est droit, philo, psycho, sociaux. Mmh. Et donc là, je suis resté 5 ans à travailler dans cette librairie.
Mmh. Et un jour, vous avez créé votre propre librairie.
Ça s'est pas fait tout de suite. Oui, après cette expérience très intéressante, je me suis orienté vers la profession de naturaliste en quelque sorte. Et là, j'ai monté un centre d'initiation à la nature en Seine-et-Marne que j'ai tenu pendant quelques années. Et après quoi, j'ai monté ma propre librairie.
D'accord.
Donc voilà, il y a eu un retour en quelque sorte aux sources. Et cette fois, donc, cette librairie qui a été montée, que j'ai tenue pendant une vingtaine d'années, hein, pendant 18 ans exactement, là, c'était une librairie qui n'était pas spécialisée du tout, une librairie générale. Mm-hmm. La particularité, c'est que c'était une librairie placée dans une péniche.
D'accord, sur la Seine.
Sur la Seine, à Melun.
Alors, mais je veux dire, entre le rayon... je dirais de sciences humaines et philo, psycho, etc., des presses universitaires de France, et cette passion de centre d'initiation à l'environnement, c'est venu comment vous avez, ce goût pour la nature et cette spécialité de naturaliste, vous l'avez trouvé où, celle-là ?
Ce goût pour la nature date de ma tendre enfance. Hein. Bon, ça fait un peu ringard de dire ça, mais c'est un peu ma grand-mère qui m'a initié à tout cela. Donc ma grand-mère habitait un petit village du sud de Fontainebleau, Bourg-en-Marlotte, elle-même artiste peintre, son mari également artiste peintre, et c'est elle qui m'a initié un petit peu à l'émotion, à la sensualité de la nature, au goût également des belles choses, des couleurs, etc. Et voilà un petit peu comment est venue la passion de la nature en collectionnant bêtement des images d'oiseaux dans les boîtes de camembert ou dans les plaquettes de chocolat. Mmh. Et puis, petit à petit, je me suis pris de passion pour d'abord pour le monde des oiseaux. C'est souvent comme ça que l'on commence. Et donc, parallèlement à la passion des livres, il y a eu la passion de la nature.
Et donc, de transmettre cette connaissance aussi pour faire ce centre d'initiation.
Alors, de transmettre ces connaissances dans un deuxième temps, parce que, bon, déjà, il faut s'imprégner soi-même. Hein, il faut être très à l'écoute. Moi, j'étais un peu rêveur, étant donné que le monde de l'écriture, ça fait partir hein, dans le rêve, dans la poésie. Donc, d'abord rêveur, et puis ensuite, effectivement... Dans un deuxième temps, le goût de transmettre aux autres la passion que l'on avait soi-même. Mmh. Alors, les oiseaux, comment ça s'est concrétisé ? Ça s'est concrétisé tout simplement en étant en parallèle de mes activités professionnelles, en étant correspondant du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et à ce moment-là, donc je travaillais, entre guillemets, bénévolement pour le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux. Et alors plus prosaïquement, c'était de faire du bagage d'oiseaux. Mmh. Donc j'ai fait une mission au Sénégal de 3 mois pour étudier également les migrations, etc.
Oui.
Donc là, effectivement, tout en étant autodidacte dans le domaine de la nature, c'était une véritable passion. Et dans un deuxième temps, effectivement, j'ai pu créer ce centre d'initiation à la nature pour transmettre la passion des oiseaux, des fleurs, des insectes, bref, de la nature en général.
Et ça s'adressait essentiellement à des enfants ou on
pas
avait
du tout.
Tout public ?
Tout public. D'abord, il y a eu des interventions dans les écoles.
Oui.
J'ai bénéficié dans ce centre d'initiation à la nature, à côté, disons, d'écoles à air ouvertes, hein, d'écoles style Freinet. Et donc là, on avait des interventions. Donc les enseignants pouvaient faire venir des intervenants extérieurs, oui. Donc pour passer des films, pour aller faire des sorties en forêt, pour aller construire des jardins potagers, etc. Donc voilà, c'était déjà en vogue. Oui. Et en même temps que ces interventions dans les écoles, donc est venue j'allais dire presque automatiquement, le besoin de créer quelque chose, donc ce centre d'initiation à la nature, qui a été ouvert à la fois aux enfants, aux adolescents, aux adultes, avec tout un tas d'activités, des expositions. Je me rappelle de tête un centre, un sentier botanique pour aveugles, par D'accord, exemple, oui. Un rucher école, un potager biologique, un circuit de d'énergie renouvelable. On a monté également une COP bio. Et évidemment, j'étais à l'époque aussi directeur de centre de vacances. Donc j'avais passé un diplôme d'animateur de centre de vacances, oui. Et puis un diplôme de directeur de centre de vacances, et puis j'étais également formateur de directeur de centre de vacances. Donc j'étais directeur de centre de vacances et j'ai emmené à plusieurs reprises des enfants qui fréquentaient le centre d'initiation à la nature en Seine-et-Marne. Eh bien, je les ai emmenés pour des orientations très naturalistes. Donc, c'était un peu l'aboutissement de toute une année de pédagogie auprès de ces gamins. Et donc là, c'est là que j'ai fréquenté la Maurienne, j'ai fréquenté le Cantal. Uniquement dans des buts d'observation et de balade dans la nature.
Oui, alors on verra après que ça a de l'influence sur vos romans. On parlera par la suite de vos deux derniers romans en particulier, donc « Pour t'emmener ailleurs » et « L'hiverne ». On verra quelle influence ça a eu sur ces romans, ces voyages. Mais pour l'instant, je voulais revenir sur les premières publications sur lesquelles vous avez travaillé, qui étaient en lien avec votre côté naturaliste. Donc, vous avez commencé à faire des petits livres d'initiation.
Oui, parce que quand je faisais ces interventions dans les écoles, je me suis aperçu à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, mais à l'époque, je me suis aperçu qu'on n'avait pas de support livresque adapté à des jeunes. Pas forcément des enfants, mais à des jeunes. Alors, il y avait déjà des ouvrages très haut de gamme, mais qui étaient trop haut de gamme pour moi. Donc tout simplement, quand on ne trouve pas sur le marché,
on est obligé de faire.
on le fait soi-même. Ouais. J'ai bénéficié également d'un soutien assez important d'un inspecteur d'académie sur la région melunaise. Et donc j'ai lancé deux livres, un sur les oiseaux et un sur les insectes. Et ça a fonctionné. Alors c'était très très anecdotique. C'était des petits dessins en noir et blanc. C'était des petits livrets. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas je vais envoyer ces petits livrets à un éditeur. Et j'ai envoyé le livre sur les oiseaux, qui était uniquement sur les oiseaux d'Île-de-France. Donc, c'était très, très restrictif. Je l'ai envoyé à un éditeur qui s'appelle Édition Nathan. Là, je suis tombé sur un directeur, Philippe Chouer, qui est décédé malheureusement depuis, qui a été très enthousiasmé par la démarche pédagogique de l'ouvrage, qui franchement était pas très, très bon. Avec cette première démarche, donc, on s'est rencontrés et... à partir de là, on est parti pour faire une collection de 18 livres, donc ils se sont étalés sur plusieurs années, bien sûr, de 18 livres sur la nature, donc qui s'appelait la collection 100 faciles à voir. Alors, 100 oiseaux faciles à voir, 100 fleurs faciles à voir, 100 insectes, etc., etc., 100 étoiles et constellations faciles à voir. Ces ouvrages, donc publiés à l'échelle nationale, ont eu un succès assez important. La collection a vécu, disons, à peu près 13 ans.
13 ans.
Avec
18 ouvrages.
18 ouvrages, voilà.
Et sur tous les sujets qui concernent la nature.
Voilà. Plus trois ouvrages derrière qui ont été un peu des compiles, parce que au début, c'était 100 faciles à voir. Et puis, au bout d'un moment, on a fait... Nathan voulait que l'on fasse un regroupement de toutes les fleurs, etc. Ce qui fait qu'on a fait 300 fleurs faciles à voir. Après, c'était un petit peu... On tirait un peu sur la corde. Ça, c'est le propre des grosses maisons d'édition comme ça. Mais, par exemple, l'ouvrage sur les étoiles, qui est l'ouvrage qui a le mieux fonctionné, il y a eu 7 éditions et il y a eu... si je me souviens bien, il a dû y avoir entre 12 et 13 000 exemplaires de vendus.
Oui.
Bon, pour des ouvrages qui n'étaient quand même pas très grand public. Hein. Bon, là, on n'a jamais eu de prix littéraire, on n'a jamais eu tout ça. Mais en fait, bah, ça intéressait qui ? Ça intéressait les écoles, ça intéressait les écoles normales, bon, qui fonctionnaient encore à l'époque. Ça intéressait les centres de vacances, ça intéressait les CPIE. Hein, oui. Les centres permanents d'initiation à l'environnement, qui n'existaient pas au moment où moi j'avais commencé cette collection. Mais ces gens-là ont trouvé des supports qui étaient adaptés à leur public avant d'aller vers des ouvrages beaucoup plus élaborés chez Delachaux et Niesley, oui, par exemple, qui était l'éditeur
ouvrages,
de référence.
Hein. Mais après, il faut accéder à ces livres qui sont assez compliqués.
Voilà. Hein. Et donc, moi, j'avais fait en quelque sorte un escalier avant d'aller vers ce palier qui était pour moi beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop difficile à aborder tout de suite. Mmh. Et c'est pourquoi cette collection a eu beaucoup, beaucoup de succès pendant des années.
Donc, il y avait toujours cette volonté de partager des connaissances sur cette nature que vous aimiez beaucoup, voilà, en gros.
Mais oui,
donc, c'était arrivé, vous parliez d'escalier, à faire des marches pour que les gens... puissent, tous les jeunes et les moins jeunes puissent comprendre, alors qu'il y a des ouvrages qui sont trop compliqués.
Voilà, puissent y accéder facilement, mais en même temps, ce n'était pas seulement une connaissance livresque ou une connaissance scientifique. Moi, je voulais aussi faire partager cette connaissance émotionnelle, parce que la nature, c'est aussi l'émotion. C'est un coucher de soleil, je me rappelle des centres de vacances en Maurienne, par exemple, avec des gamins à l'affût derrière des rochers pour voir des marmottes, pour observer des bouquetins. Donc c'est pas uniquement la connaissance scientifique, c'est-à-dire on observe et c'est tout. Non, je voulais aussi faire partager cette émotion. C'est-à-dire être dans la nuit aussi pour entendre les oiseaux de nuit, pour entendre ce qui se passe en forêt la nuit. Donc, en même temps que la connaissance, j'allais dire purement scolaire, hein, de la nature, je voulais aussi mettre la dimension un peu plus poétique, un peu plus sur le plan de l'émotion. Mmh. Voilà.
Donc ça, c'est un travail d'auteur pour partager les choses, pour faire comprendre et accéder à un certain nombre de gens à ces connaissances, cette émotion, cette poésie.
La meilleure preuve, c'est que dans le centre d'initiation à la nature, on a fait donc ce fameux sentier botanique pour aveugles, bon, qui était une première en France. Hein,
oui. Non, mais je veux dire, je vois beaucoup de choses dans votre centre d'initiation. Il y a un certain nombre de choses qui étaient totalement révolutionnaires à l'époque.
Ah, complètement.
Mais c'est ce qu'on commence à faire maintenant.
Ah oui,
tout je veux dire, fait. Et tout le monde trouve ça révolutionnaire. Ah, mais je veux dire, c'est étonnant que vous ayez lancé ça il y a 30 ans.
Quand on a monté la COP bio, par exemple, la COP bio, c'était quelque chose de complètement, complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a des COP bio pratiquement partout. Mm-hmm. Le sentier botanique pour aveugles, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait. Mm-hmm. Le rucher école, s'il y en avait trois en France, c'est tout. Et c'était un rucher école qui était à la fois pour des adultes qui voulaient devenir, pas apiculteurs, mais qui voulaient avoir des ruches au fond de leur jardin. Mais le rucher était école également, est également ouvert aux enfants. Donc c'était exceptionnel parce que ça ne se faisait pas. Donc moi je voulais absolument concrétiser les choses. Donc on sortait les gamins du milieu scolaire, on allait en forêt, on allait en montagne, on allait au bord de la mer, on faisait des expositions extrêmement importantes dans ce centre d'initiation à la nature, sur le patrimoine, sur plein de choses. Alors, par exemple, une anecdote, là, je me rappelle avoir fait une exposition sur l'apiculture. Et en fait, on avait construit, à l'entrée de la salle d'exposition, une ruche géante. Donc, la ruche faisait 9 mètres de haut, à peu près. Et donc, les gens qui rentrent... Alors, il y avait uniquement la porte de la ruche, hein, mais oui. quand on arrivait dans la salle d'exposition, on voyait cette grande ruche devant la porte. Et en fait, les gens étaient comme si c'était des abeilles. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans la salle d'exposition par la ruche.
D'accord.
Voilà, donc, voilà un peu des choses concrètes qui ont été faites pendant ces quelques années d'existence du centre d'initiation à la nature.
Alors, est-ce que, parce que vous faisiez beaucoup de choses,
oui.
Et est-ce que Votre activité autour du livre, bon, il y avait tout ce travail d'édition dans la collection chez Nathan, mais et votre librairie existait déjà ? Vous meniez tout ça de front ou la librairie est venue à, on reparlera de votre métier de libraire d'aujourd'hui, mais je veux dire, vous meniez à l'époque déjà cette librairie, elle existait sur la péniche ?
Alors non, c'est-à-dire que le centre d'initiation à la nature n'était pas en même temps que la librairie.
D'accord. Donc vous avez à un moment, vous êtes sorti de la librairie pour
entrer dans le centre d'initiation à la nature. Mmh. Et ensuite, j'ai fait ma librairie, mais dans un deuxième temps. Hein. Mmh. Mais pendant le centre d'initiation à la nature, il y avait ces publications chez Nathan. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, je voulais revenir justement à votre travail d'auteur, parce que vous avez lancer cette collection et alimenter cette collection qui était pleine de connaissances scientifiques. Il y avait plein de photos, plein de documents. Sans doute, ça devait être un travail assez considérable, même si c'était les petits documents.
Disons, un livre... le livre sur les oiseaux, par exemple, qui a été le premier de la collection, c'est 6 mois de travail.
6 mois de travail. Hein, oui.
6 mois de travail, inventer des clés de détermination, ce qui n'existait dans aucun livre. Mmh. Maintenant, ça se fait à peu près ça se fait à peu près partout. Une clé de détermination, c'est quoi ? Ce sont des moyens mnémotechniques ou des moyens faciles pour arriver très rapidement au nom de l'oiseau, au nom de la fleur, au nom de l'insecte, au nom de l'étoile... etc. Mmh. Donc des trucs en quelque sorte simples pour arriver très rapidement et le plus rapidement possible au nom de la fleur. Exemple, j'ai fait un stage une fois en Maurienne avec des adultes sur les fleurs de montagne. Donc j'avais utilisé bien évidemment mon livre sur les fleurs des montagnes, donc 100 fleurs des montagnes faciles à voir. Au bout d'une semaine, de stage, les stagiaires adultes, hein, pas des enfants, les adultes savaient reconnaître une centaine de plantes. Mmh. En une semaine.
Donc, avec des outils pointus pour...
Uniquement avec l'ouvrage qu'ils avaient dans la main et avec un système de clés de détermination où on pouvait très bien se promener en forêt, dans les pelouses alpines, massifs rocheux, au bord de rivières, au bord de lacs, etc. Et uniquement avec cet outil, en une semaine, les gens étaient capables de reconnaître une centaine de plantes.
Fleurs. Voilà. D'accord. Alors, tout ce centre d'initiation, ces voyages, etc., ça a nourri les romans que vous venez de publier dans les quelques temps qui viennent de passer. Donc, il y en a eu deux, L'hiverne, puis le dernier, Pour t'emmener ailleurs. Justement, vous avez beaucoup parlé des fleurs. Dans le premier, L'hiverne, on a une présence des fleurs, puisque le héros... Il ramasse des fleurs et il en fait son métier. Voilà. Et dans le second, Pour t'emmener ailleurs, là, on est plus dans le voyage. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Pour t'emmener ailleurs. Pour t'emmener ailleurs, le dernier, qui est sorti il y a quelques mois, quel est le projet? Quel était le projet et quelle est l'histoire?
Alors, il se trouve que, en même temps que j'ai monté cette librairie sur la péniche, au bout de quelques années, on m'a détourné de cet objectif premier et on est venu me chercher pour monter une agence de voyage naturaliste.
Donc, ça en fait des choses.
Oui, ça en fait des choses. Donc effectivement, j'ai participé à une agence de voyage qui s'appelait Cap Nature. Et là, j'ai accompagné, notamment en Namibie, hein, donc dans le sud de l'Afrique, des voyages naturalistes. J'ai accompagné des gens dans le delta du Danube en Roumanie pour des oiseaux. Et c'est vrai que ce dernier ouvrage, là, Pour t'emmener ailleurs, c'est aussi un petit peu la transmission de cette passion du voyage que j'avais aussi, que j'ai toujours d'ailleurs. Alors, L'hiverne est plus un roman, je dirais, historique, hein, basé sur des faits réels, hein, d'histoire, donc 1850, au moment où la Savoie n'est pas encore française, alors que le dernier, Pour t'emmener ailleurs, n'est pas du tout un roman historique, mais c'est plutôt un roman d'aventure.
Un roman d'aventure. Voilà. Mais qui permet de découvrir le voyage en particulier.
Voilà, qui permet de découvrir le voyage, qui permet aussi de découvrir. Les deux héros du livre veulent s'extraire du monde dans lequel ils sont. Et ils vont partir de Savoie, ils vont se retrouver à Marseille, ils vont repartir à pied, ils vont aller à Marseille. Et là, après moult péripéties, ils vont embarquer sur un bateau et ils vont partir le long des côtes africaines pour se retrouver sur l'île de la Réunion. Donc, ils vont vraiment partir très très loin, très très loin de chez eux.
Ce qui comptait, c'est de partir.
Voilà.
Oui, non, mais c'est le voyage pour aller à la découverte.
Voilà, pour aller à la fois à la découverte de l'autre, à la découverte des paysages et à la découverte d'autre chose que son quotidien.
Est-ce qu'on pourrait en avoir un avant-goût, un petit extrait pour t'emmener ailleurs, de ce voyage que font les deux héros ?
On te voyait aller et venir depuis un moment, entre le bateau et une boutique en ville. On a même été jusqu'à te suivre. Bah, pourquoi faire ? Regardez-moi ce petit effronté. Pourquoi faire, pardi ? Pour que tu nous dises où ton patron cache ses armes. Tu n'as rien à dire, tu nous emmènes, tu nous dis combien il y en a et c'est tout. Et ensuite, vous me relâchez ? Bah, bien sûr, si tu es bien sage. Parce que sinon... Sinon quoi ? Sinon, tu verras. Bon, allez, maintenant, assez chahuté, tu nous emmènes, on n'en parle plus. Ton dino n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit. Pourquoi d'un seul coup faire confiance à des trognes venus de nulle part, qui en outre voulaient faire main basse sur les armes du navire dont il était le mousse ? Un mélange de peur et de curiosité animait le tondino. Il ne savait pas s'il voulait s'échapper ou rester. « Je voudrais manger, monsieur, s'il vous plaît. »« Et poli avec ça, c'est bien, il t'a bien élevé, ton papa. »« Je n'ai pas de papa, je vis tout seul sur le port. Vous devriez le savoir si vous êtes après moi depuis longtemps. » Doucement, petit, tu nous parles correctement et ensuite on voit. Les patrons ici, c'est nous. Alors, attention à ne pas la ramener. Celui qui venait de parler semblait le chef de la bande. Le commandant avait donné son accord pour que l'on rapporte les armes à la nuit, mais il ne fallait pas trop tarder quand même. Des marchandises devaient être livrées d'un moment à l'autre et de la main-d'œuvre supplémentaire ne serait jamais de refus. Tondino poussait une coquille de noix avec un bâton entre les pavés disjoints du port quand il se fit aborder. « C'est bien toi que l'on nomme Tondino ?» dit un type mal rasé, portant un chiffon rouge autour du cou. « Bah oui, monsieur, et vous, comment on vous appelle ?»« Moi, on m'appelle la gamelle, si tu veux savoir. Rapport à ce que pour trouver à manger, je suis, comme qui dirait, un champion. Mais c'est moi qui pose les questions, pas toi. Mon ami voudrait discuter un moment avec toi à propos de certaines choses que tu sais. Il faudrait que tu me suives sans faire trop de raffus, parce que tu vois là-bas, derrière la grosse borne d'amarrage, j'ai trois compagnons qui sont prêts à bondir sur nous si tu n'es pas sage. Tu vois ce que je veux dire ? »
Merci. Donc, c'était un extrait de Pourtant mené ailleurs, de Bernard Loyer. Alors, on va digérer un peu ce bout de texte en musique. Et puis, on retrouve notre invité juste après pour parler de ses autres publications et de son métier de libraire aussi, parce que ça nous intéresse également.
Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez toute bonne, vous êtes toute belle, mesdamoiselles. La 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 la. Et est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes. C'est vrai qu'il est seul, ce lapin. Je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. La 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 la. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. La, 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 la. « Heureuse qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. La la la, c'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. La 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 la. Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. La la.
Et voilà, donc c'était Dick Annegarn, est-ce qu'on est bien dans ce jardin? C'est tout à fait de circonstances de redécouvrir. Il parle des légumes et tout ça, c'est
chanté par Thomas Fersen, mais
Thomas
c'est,
Fersen, c'est, oui, de Dick Annegarn. De Dick Annegarn. D'accord, donc on retrouve Bernard Loyer, notre multi-casquette. Donc on a parlé de son histoire de début dans la librairie et puis... tout son travail autour de la nature et de ce centre d'initiation à la nature. On a fini par cette agence de voyage qui a un peu donné naissance à son dernier roman « Pour t'emmener ailleurs » dont il nous a lu un extrait. Moi, je voulais revenir justement sur ce travail d'auteur. Donc, vous aviez fait toute une série de livres naturalistes pour faire d'initiation, vraiment des livres prévus pour être accessibles en particulier à des jeunes. Et d'un seul coup, on vous retrouve avec des romans. C'était voulu, c'était autre chose, c'est né comment? Alors, on a vu que ça prenait racine dans votre histoire, parce qu'on retrouve beaucoup la nature, les voyages. Mais,
Disons que l'écriture a toujours été pour moi une sorte de seconde nature. C'est-à-dire que j'écris depuis toujours, soit de la poésie, comme pratiquement tout le monde, hein, quand on est adolescent ou jeune adulte, on écrit, ou on a un cahier intime, des choses comme ça. Après, pendant quelques années, j'ai fait un peu de journalisme, c'est-à-dire que j'avais un billet. Donc là, c'était une sorte de contrainte parce que j'avais un billet mensuel dans une revue. Donc là, il fallait que j'écrive pour tenir ce billet. Donc l'écriture n'a jamais été pour moi trop un problème. Alors, c'est vrai qu'après ces ouvrages naturalistes qui étaient plus des ouvrages de compilation, hein. Oui. Donc n'oublions pas que je n'ai rien inventé. J'ai pas inventé les constellations, j'ai pas inventé les étoiles, j'ai pas inventé les fleurs,
etc. Ni les oiseaux.
C'est uniquement pour mettre à disposition des choses qui existaient par ailleurs, mais mon invention résidait, j'allais dire, dans le côté pratique du livre, les clés de détermination dont on a parlé. Et à un moment donné, c'est imposé à moi d'aller plus loin que de faire des ouvrages scientifiques. Bon, bah, je voulais raconter des histoires, tout simplement, un peu comme on raconte des contes à la veillée. Et donc, voilà, je me suis lancé dans une écriture un petit peu plus complexe, un petit peu plus longue. Et voilà, ça a été mon premier roman, édité chez Parole Édition, donc en 2011. Et en même temps que ce premier roman était sorti, il y avait dans les cartons, dans les tuyaux, un deuxième roman qui était en gestation. Aujourd'hui, là, on est en 2014, il y a déjà un troisième roman qui est dans les tuyaux. Voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de... Alors, je dirais, c'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'on se dit, il écrit... Non, c'est parce qu'on a envie d'écrire... On a envie de faire partager, mais c'est surtout, franchement, le plaisir de l'écriture.
Le plaisir de l'écriture. Ouais. Donc, il y a le partage aussi, il y a toute une histoire. Enfin, ça s'appuie, ces romans, que ce soit L'hiverne, où on a très présent les fleurs, et Pour t'emmener ailleurs, dans lequel on a très présent le voyage et la découverte, ça s'appuie sur ils n'auraient pas pu être écrits 30 ans avant, sans doute.
Ah,
ça s'appuie sur une vie.
Oui, ça s'appuie sur une vie, mais c'est aussi c'est aussi toujours ce côté de sensualité, d'émotion que je veux faire partager. Bon, c'est vrai que c'est très joli de regarder un coucher de soleil, des fleurs ou des oiseaux, mais il y a peut-être autre chose. Il y a aussi le plaisir de se retrouver dans la nature, de sentir le vent passer sur soi, de sentir le rayonnement du soleil, de sentir la pluie, etc. Et quoi de mieux qu'un roman qui vous emmène dans une sorte d'aventure avec des personnages et un roman, on peut s'identifier à des personnages, que ce soit un homme, une femme ou n'importe, n'importe quel âge. Quand on est lecteur, on s'identifie forcément à un personnage du roman. Et là, j'allais dire que le sexe, peu importe, on a envie d'épouser tel personnage plutôt que tel autre. Pourquoi ? Parce que c'est sa personnalité, parce que c'est son parcours de vie, et on a envie de rentrer, dans son personnage. Alors quand on écrit, et moi je me prétends pas écrivain, j'ai envie de dire, je suis passeur d'émotions ou passeur de mots tout simplement. On s'identifie également à tous les personnages du roman. Alors ce qui est très curieux. Et ça m'est arrivé pour ces deux livres, notamment pour l'hiverne, quand on met en place les personnages, on dit oui, mais c'est toi qui les inventes, c'est toi qui les fabriques, c'est toi qui les fais naître, etc. Oui, c'est vrai. Et une fois que tous ces personnages sont en place, ce sont les personnages qui vont vous mener et qui vont en quelque sorte vous mener dans l'histoire. Et vous allez prêter votre plume, vous allez prêter un peu votre main à tous ces personnages. Ça, je voulais pas y croire. Je me disais, non, ça, c'est du baratin. C'est l'écrivain qui écrit, c'est pas... Et en fait, non. C'est les personnages qui vous mènent, c'est les personnages qui... Vous pouvez pas faire autrement que d'aller vers tel but plutôt que vers tel autre, parce que le personnage, il va être construit comme ça, parce que c'est une fille, parce que c'est un garçon, parce que c'est un jeune, parce que c'est un vieux, c'est un adulte, c'est un, etc., etc. Et donc, ce personnage, alors, qu'est-ce qui va se passer dans la tête de l'écrivain? En fait, il va s'identifier à tout le monde. Et on va retrouver, pour les gens qui connaissent bien celui qui écrit, donc vraiment de manière intime, on va retrouver forcément à l'intérieur de ces personnages des parties d'autobiographie. C'est évident. Oui.
Mais en même temps, et vous le disiez tout à l'heure, le lecteur, lui, il va rentrer aussi dans les personnages. C'est-à-dire que quelque part, le lecteur trouve un peu de lui-même dans les personnages. C'est-à-dire qu'il va s'identifier à l'un ou l'autre des personnages. Et donc, c'est ça qui lui fait rentrer dans l'histoire.
Mais oui, parce que les personnages sont quand même très éclectiques. Là, c'est pas un roman à deux personnages. Il y a plusieurs personnes. Oui. Donc, le lecteur va être tout simplement voyeur, au bon sens du terme, et donc il va être un peu à l'extérieur du roman et il va voir ce qui se passe. Comme on regarde une émission de télévision, comme on regarde un paysage, on n'est pas dedans, mais on va regarder. Ou alors, il va s'identifier. Il va se prendre pour Bertino, il va se prendre pour Bartholet, il va se prendre pour l'un ou l'autre, tout simplement parce que à un moment donné, il y a des choses dans le personnage du roman qui vont lui ressembler.
Oui, oui,
c'est ça. C'est l'âge, ou c'est le parcours, ou c'est les antécédents, bref, et tout simplement le lecteur va rentrer, quand le lecteur est rentré dans l'ouvrage comme ça et qu'il va s'identifier, on peut dire que l'écrivain ou celui qui a écrit le livre, en tous les cas, il a gagné. Parce que l'intérêt pour un livre, c'est de ne pas être voyeur, mais c'est vraiment de rentrer dedans et de s'identifier. Si c'est un roman policier, chose que je ne sais pas faire, mais si c'est un roman policier, on peut très bien s'identifier au tueur, on peut très bien s'identifier à la victime, on peut très bien s'identifier à un tas de choses. Et là, effectivement, on a gagné le pari, quoi.
Donc un roman qui intéresse le lecteur, c'est un roman dans lequel on peut se glisser, on met ses pieds dans des chaussures qui sont faites pour vous à un moment donné, qui vous permettent de marcher dans le roman.
Alors
quasiment.
Au départ, on ne sait pas, parce que quand on écrit, on ne sait pas pour qui on va écrire déjà. Non. On écrit d'abord pour se faire plaisir. On essaye de construire quelque chose qui soit à peu près cohérent, qui aille dans un certain but, qui fasse pas 3000 pages, mais qui soit absorbable. Et puis, évidemment, pour moi, le roman le plus abouti, en tous les cas, le texte le mieux, c'est que ce texte corresponde à une ouverture pour que le lecteur puisse rentrer dedans. Qu'il puisse tout simplement... Bon, les deux textes se passent dans le milieu du 19e. Eh bien, pourquoi pas prendre le lecteur par la main et le faire rentrer dans un monde qu'il ne connaît pas, moi non plus, bien évidemment. Mais le fait de l'écriture va pouvoir peut-être le faire rentrer dans autre chose, va le faire s'évader complètement, va le faire partir dans des situations qu'il ne connaissait pas, dans des situations, dans des conflits, etc., qu'il n'avait pas envisagé. Et à un moment donné, pendant quelques heures, pendant quelques jours que va durer la lecture, eh bien le lecteur va rentrer comme ça. Le but du roman, c'est toujours ça, hein. C'est de partir ailleurs, alors pas forcément dans un voyage lointain au fond de l'Afrique, mais c'est tout simplement sur le plan mental de partir complètement ailleurs.
Donc, pour qu'il y ait lecteur, qu'il n'y a pas de livre sans lecteur, faut faire une petite place au lecteur, quoi, quelque part.
Faut faire une place au lecteur. Ah oui. Sinon, vous écrivez pour vous, et puis vous laissez ça dans un fond de tiroir. Pourquoi pas. Alors, à un moment donné, on se dit, peut-être que ça vaut le coup d'aller voir un éditeur. Peut-être que ça vaut le coup de faire partager ce que l'on a ressenti dans l'écriture, ce que l'on a ressenti dans l'émotion. Et c'est à ce moment-là qu'on va franchir le pas de l'édition. C'est-à-dire qu'on... Voilà, on va livrer, c'est une sorte d'accouchement, hein, on va livrer le bébé à quelqu'un qui va le reprendre à son compte, et là qui va essayer de le diffuser, qui va essayer de le disperser aux quatre vents pour que le plus de lecteurs possible puissent rentrer dans ce monde qui a intéressé à la fois l'écrivain et qui a intéressé également l'éditeur.
Alors, ces romans, pour vous, ça a été long à accoucher. Est-ce qu'on travaille sur du long terme? Est-ce que vous travaillez sur du long terme? Vous reprenez? Est-ce qu'il y a des textes qui viennent de loin, que vous laissez un moment, que vous reprenez? Ou ça vient d'un coup? Il n'y en a pas plusieurs qui sont en même temps?
Il y a plusieurs qui sont en même temps. Dans mon cas, pour t'emmener ailleurs, là, celui qui vient de sortir, c'est 10 ans.
10 ans.
Bon, mais 10 ans, c'est pas tous les jours du matin au
non,
soir,
sûr,
et du soir au matin, et tous les jours que Dieu fait. Non, ça, c'est pas vrai. 10 ans, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai commencé cet ouvrage. J'ai laissé tomber pendant quelques temps. J'ai pris l'hiverne entre-temps, qui a été mené de manière un peu plus rapide.
D'accord.
L'hiverne, ça a fait 2-3 ans d'écriture. Et là... de manière un petit peu plus intense quand même.
D'accord. Alors, peut-être que on va goûter un petit bout de l'hiverne. Si on goûtait un petit bout de l'hiverne, je crois que vous avez préparé un extrait qu'on peut lire. Voilà, donc l'hiverne qui était le premier roman de Bernard Loyer, qui va d'abord prendre une gorgée d'eau.
Parce que ça gratte.
Donc, on a parlé des deux romans, le dernier qui est sorti pour t'emmener ailleurs, dont on a lu un extrait tout à l'heure. Et là, on va lire un petit extrait de l'hiverne, celui qui s'est fait entre deux au milieu, quoi.
Voilà, hein, qui s'est fait entre deux.
Qui est poussé comme une mauvaise herbe au milieu de l'autre.
Alors, qui est plus un roman historique. C'est-à-dire que j'ai un petit peu travaillé le côté historique du texte, à savoir, je me suis penché sur des documents d'époque, des histoires de la Savoie, les guerres un peu fratricides qu'il y a eu entre la Savoie, le Piémont, etc., pour savoir un petit peu quels étaient tous les personnages, comment les enjeux étaient en place. Bon, mais c'est pas un ouvrage d'histoire, hein.
Non,
d'abord, je ne suis pas historien. Et donc, avec ce contexte un peu historique, on est là dans une période trouble. La Savoie a été française en 1860 avec le comté de Nice, mais avant cette période, elle était entre le Piémont, l'Autriche-Hongrie et la France. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas trop, il y avait les comtes de Savoie, mais tout ça, c'était pas français. Et donc, dans ce contexte un peu difficile, eh bien, les saisons passaient, il fallait vivre tous les jours, et il y avait... là, quelqu'un d'assez exceptionnel. Il y avait ce Barthelet, donc, qui était cueilleur de fleurs, hein, cueilleur de simples, hein, comme on l'appelait à l'époque. Et il y avait une autre personne qui s'appelle Eugénie et qui était une colporteuse et qui venait du nord de la Yougoslavie. Bon, c'était une tradition à l'époque où les femmes étaient colporteuses également, comme les hommes. Mmh. Et là, nous sommes en 1822. Après le moment de stupéfaction, Barthelet devait se rendre à l'évidence. Un enfant était bien là dans le paquet, et ce « e » comme signature sur le papier. Pas de doute. Eugénie. C'était donc cela. Tout allait vite dans sa tête à présent. La colporteuse n'était pas revenue de deux hivers, mais était restée plus longtemps que d'habitude. Des femmes de Bessan devaient donc savoir que Eugénie était grosse. Et maintenant, le gosse, devant cette grange, mais c'est elle qui l'a posé. Donc elle est passée par Averolles pour se rendre dans le Piémont. Ensuite, il n'y a qu'un chemin, c'est le vallon de la Lombarde. Barthelet rentra le paquet à l'intérieur et se mit à courir en direction du plan du pré. On ne pouvait avoir déposé le paquet dans la nuit. Un berger s'en serait aperçu. Le guérisseur arrivait à un endroit d'où on pouvait voir en enfilade une bonne partie du vallon de la Lombarde. Il aperçut assez loin quelqu'un qui marchait avec peut-être un sac sur le dos. C'était elle à n'en plus douter. « Eugénie ! Eugénie !» se mit-il à crier. « Rien. Sinon l'écho. » La personne au loin continuait sa marche. Barthelet, en sueur, se remit à courir. Essoufflé, il cria à nouveau « Eugénie !» Le marcheur ne se retournait pas, il était trop loin. « Ce n'est pas possible, je ne voulais pas. » Barthelet, de rage, prit des poignées de cailloux, les lança en l'air. Il tapait dans la neige, il pleurait, il voulait crier, mais rien ne sortait de sa gorge. Une sorte d'hébétude le gagnait à nouveau. Il marchait vers le point là-bas qui fuyait. Ce n'était peut-être pas Eugénie. Elle était cachée derrière un rocher par ici. Elle allait se montrer d'un instant à l'autre. C'était une mauvaise blague. Il ne pouvait pas retourner dans la vallée avec un paquet aussi encombrant. Sa notoriété était en jeu. « Eugénie, c'est moi, montre-toi » Il criait aux montagnes, au vent, à la neige, avec l'écho pour seul confident. « Je sais, se dit-il tout fort, elle est revenue à la grange pendant que je cours par ici. » Il dévala le chemin qu'il ramenait à sa grange à fleurs. Il faillit se rompre une jambe en glissant méchamment sur une plaque à neige. « J'arrive, Eugénie, c'est moi !» Il parlait tout haut en courant. Le paysage impassible autour de lui ne réagissait pas. Arrivé à la grange, il vit que le paquet bougeant était encore là. Mais cette fois, ça pleurait à l'intérieur. Il prit le paquet à plein bras, en enfouissant sa tête dans le ballot de chiffon. Il se mit à pleurer. Personne ne le regardait. Le guérisseur retraversa le village et vint déposer l'enfant chez lui.
Mmh. Donc voilà un extrait de l'Hiverne, avec cet homme qui est effectivement cueilleur de simples et qui soigne les gens avec ça, hein, dans toute la vallée, qui est un guérisseur.
Hein. Qui soigne les gens avec des onguents faits à partir de graisse de marmotte.
Oui.
Alors bon, ça c'est vrai, aujourd'hui
ça
c'est...
aujourd'hui
c'est bon, ça se fait plus trop. Mais effectivement, bon, on avait là des gens qui étaient pharmaciens hein, avant l'heure. On était dans des villages quand même, bon maintenant c'est un peu moins vrai parce que le 19e c'est loin, mais on était dans des villages quand même très reculés. Il fallait tout trouver sur place. Il fallait trouver la nourriture, il fallait trouver le guérisseur, il fallait trouver le curé qui était le guérisseur des âmes. Lui c'était le guérisseur des corps et on avait dans ces villages, bon puis on avait aussi l'instituteur hein, qui était lui le guérisseur en quelque sorte ou le pourvoyeur de la philosophie et puis de l'éducation. Bon, ces gens-là étaient extrêmement importants. D'abord ils avaient une très grande notoriété. Et à Barthelet, il va lui arriver une sorte de tuile, en fait. Voilà, dans l'extrait que l'on a lu, il y a un enfant qui lui arrive sur les bras. Est-ce que c'est lui le père ? Est-ce que c'est... Bon, et en fait, on n'était pas habitué dans le village à voir ce Barthelet avec un gamin. Il avait peur d'y revenir, parce que dans ces villages se disent des choses... Alors, qui est-ce qui a fait l'enfant ? Est-ce que c'est la femme verte ? Est-ce que c'est le diable ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des connivences comme ça avec des forces un peu malines ou des forces sombres ? Parce que, bon, on croyait aussi beaucoup à toutes ces choses. Alors, voilà un petit peu l'émotion qui va être subie par ce pauvre Barthelet. Je pense que le lecteur, là, quelque part, il peut
s'y retrouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même dans ce Barthelet, on vous retrouve un peu, parce que ce personnage qui profite de ses connaissances de la nature, parce que ça le passionne aussi, pour le partager avec d'autres, en faire bénéficier les autres, c'est pas loin aussi de votre histoire,
de ce que
vous avez raconté. Mais bon, voilà, il y a un peu d'autobiographie,
toujours,
ce que vous disiez.
N'importe quel roman, il y a toujours une part d'autobiographie, parce que vous écrivez avec vos tripes, vous écrivez avec votre tête, vous écrivez avec votre cœur. Après, vous écrivez avec votre main, bien sûr.
Oui.
Mais au départ, on écrit avec tout ça. Et sans qu'on le veuille, hein, on va pas dire, bah tiens, Barthelet, ça va être moi, je vais faire comme ci, comme ça. Non, c'est pas possible. Mais ça remonte à la surface. Et quand vous allez écrire ce personnage, quand vous allez le décrire, quand vous allez le faire vivre, hein, quand il va bouger, quand il va s'exprimer, forcément, il va y avoir une partie de celui qui écrit, c'est sûr.
Alors justement, bon, il y a toute une histoire. Alors aujourd'hui, vous êtes libraire, hein, vous travaillez au Poivre d'Anne à Manosque. Vous l'avez été, on l'a vu tout au début de votre carrière. Après, vous avez vu votre librairie sur cette péniche. Et alors, quelle interaction il y a, quelle influence il y a pour l'auteur quand il est libraire et le libraire quand il est auteur? Parce qu'un libraire, ça lit beaucoup, a priori, quoi, hein, pour pouvoir conseiller des livres. Quand on est auteur, donc on lit tout un tas de choses. Est-ce qu'on a un regard différent sur les livres? Et quand on est auteur et qu'on écrit, est-ce qu'on a un regard un peu... Est-ce que ça change le travail de libraire qu'on peut avoir?
Ah, c'est sûr. C'est sûr, d'abord parce que...
On peut être libraire sans jamais rien écrire.
Ah bah complètement, voilà. Mais on peut pas être libraire sans avoir jamais rien lu.
Non, ça, ah, c'est sûr.
C'est sûr. C'est pas possible. Bon, le livre, la chose écrite, la chose livresque m'a toujours séduit. Bon, si j'écris depuis que je sais écrire, je lis depuis que je sais lire.
Oui.
Bon, j'ai été, comme beaucoup, très très influencé par Jean Giono, hein, donc... natif de Manosque, ayant vécu à Manosque pendant jusqu'à sa mort. Et c'est vrai que dans cet hiver, notamment, on m'a fait remarquer, enfin plusieurs lecteurs m'ont fait remarquer qu'il y avait des influences de Giono. Et ça aussi, vous pouvez pas faire autrement. C'est autobiographique d'une part, mais vous avez également les influences de votre propre vie, de votre propre lecture, de vos propres apports. Ça revient dans l'écriture. Ça, c'est impossible autrement. Mais là aussi, je continue bien évidemment à lire. Mais j'ai pas l'impression, et là c'est au lecteur de le dire, moi je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'être influencé par les lectures d'aujourd'hui.
D'accord.
Quand j'ai écrit ce deuxième roman, là, Pour t'emmener ailleurs, j'ai l'impression, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, j'ai l'impression que ça ressemble à rien de ce que je connais par ailleurs. Bon,
d'accord.
Je dis pas que c'est un livre très abouti, que c'est excellent, etc. Pas du tout. Y a des livres... Bon, qui sont beaucoup mieux que cela, même des romans d'aventure qui sont beaucoup mieux ficelés, entre guillemets, que celui-là. Bon, peu importe, moi, ce que j'ai envie d'écrire ça...
Oui, oui, voilà, c'est votre roman.
c'est mon truc.
Mais alors, le fait d'être libraire, ça permet de comparer avec beaucoup de choses.
Ah, ça permet de comparer, bien sûr. Ouais, et d'être modeste aussi, quand même.
Ouais,
hein.
Ouais.
D'être modeste, parce que quand vous êtes libraire, bah, vous voyez des trucs absolument nuls. Et vous voyez des bonnes choses. Bon, ça c'est normal, hein, parce que on a un regard beaucoup plus critique. On fait attention à la construction. On fait attention, à mon sens, trop à l'histoire. On fait pas suffisamment attention à la littérature, en fait. Et c'est ça un petit peu que je vais reprocher dans le livre aujourd'hui, pas dans tous, hein, mais on s'attache beaucoup plus, regardez, les émissions de télévision, les émissions littéraires, hein, qu'elles soient radiophoniques ou télévisuelles, on s'attache trop souvent, à mon sens, à l'histoire qui est décrite dans le livre, et pas suffisamment à la littérature. Comment c'est écrit, quel style, comment ça a été fait, est-ce que les dialogues sont longs, est-ce que les dialogues sont courts, est-ce qu'il y a une richesse dans le vocabulaire, etc. Et je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus, on insiste beaucoup plus sur le conte, hein, sur l'histoire, comment ça a été mené. Mais à mon sens, on n'est pas les journalistes qui travaillent comme ça avec ces écrivains. À mon sens, ne travaille pas assez le côté littéraire du livre. Et c'est pourquoi il y a des livres qui font pchit. Hein.
Même s'ils sont poussés très fort même par des grandes émissions.
Oui, de toute façon...
Le public n'est pas dupe.
Le public n'est pas dupe. Bon, alors c'est vrai qu'il y a des coûts médiatiques qui sont importants, mais qui sont d'abord des coûts de marketing et qui sont pas spécialement des coûts littéraires. Si le livre dure... je veux dire, si le livre continue dans la durée, donc s'il se vend au bout de plusieurs mois, plusieurs années, on peut dire que c'est quelque chose qui va correspondre à un certain lectorat. Et donc là, on va avoir, entre guillemets, un bon livre. Mais malheureusement, la plupart du temps, et là en tant que libraire, on le voit trop souvent, les livres vont durer 3-4 mois.
Donc finalement, le public de lecteurs, les lecteurs... sont quand même, on leur fait pas avaler des couleuvres. Ils sont capables collectivement de reconnaître quelque chose qui est de qualité, qui leur apporte aussi des réponses à des attentes qu'ils peuvent avoir.
Et oui, parce que bon, un livre c'est pas qu'une histoire. Les histoires, vous en avez tous les jours à la télévision, il y en a tous les jours à la radio, malheureusement ou heureusement, enfin bon, peu importe. Mais des histoires, il y en a tout le temps. Mais comment sont décrites ces histoires? Comment elles sont fabriquées? Comment elles sont faites? Comment elles sont apportées au lecteur? Et le lecteur ne va pas s'y tromper. Les bibliothèques marchent. Pourquoi? Tout simplement parce que le lecteur va choisir avec le bibliothécaire ou la bibliothécaire, mais le livre va sortir beaucoup ou va pas sortir beaucoup, tout simplement parce que le lecteur est vraiment le dernier filtre. Et dans la librairie, c'est la même chose. C'est le lecteur qui va faire que la librairie va fonctionner, mais à condition qu'on ait de la bonne nourriture à proposer.
Oui, c'est ça. Vous qui êtes libraire depuis très 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 longtemps, vous ne pourriez pas continuer à faire ce métier si vos lecteurs revenaient en disant tous les trucs que vous me proposez, ce n'est pas bon.
Parce que le lecteur, par essence, n'est pas fidèle. Le client n'est pas fidèle. Il va revenir s'il est bien conseillé, s'il trouve quelque chose qui va lui convenir. Alors, on peut se tromper, hein, on n'est pas toujours... il peut y avoir un bouquin qui ne va pas fonctionner. Mais le client va revenir vers vous. Bon, le but du jeu aussi dans une librairie, c'est de vendre.
Oui, bien sûr.
Sinon, on fait du prosélytisme, mais bon, on ne peut pas. Bon, bref. Donc, il faut vendre aussi des livres. Mais pour bien vendre des choses, il faut soi-même que ça convienne. Il faut soi-même l'avoir lu et se dire, celui-là, je vous le conseille parce que, voilà, ça peut correspondre à ce que vous souhaitez, etc. Celui-là, je ne peux pas vous le conseiller parce que je ne l'ai pas lu. Je ne dis pas qu'il est mauvais, qu'il est bon. Je ne l'ai pas lu, j'en sais rien. Donc, au lecteur aussi, de se faire sa propre opinion par rapport à la quatrième de couverture, par rapport à ce qu'il a entendu à la radio, par rapport à ce qu'il a vu dans des journaux, etc. Donc, il n'y a pas que le libraire qui va être le prescripteur. Mais le libraire est quand même le passeur, me semble-t-il, essentiel entre l'écrivain, entre le livre et lui-même et le lecteur. Donc le libraire va être le passeur. Et si c'est un bon passeur, le lecteur va revenir. Le lecteur qui est un client, qui n'est pas le lecteur de la bibliothèque, c'est pas la même chose. Donc le client qui va venir acheter, donc qui va débourser de l'argent pour faire vivre la librairie.
Voilà, donc, je crois que c'est... Vous avez parlé de nourriture. Voilà, s'il est bien nourri, le lecteur revient
quand vous avez une bonne boulangerie, que vous savez que le pain est bon, vous allez venir à cette boulangerie. Si un jour le pain commence à plus aller, vous allez ailleurs. La librairie, c'est la même chose. Alors le pain est une nourriture essentielle, mais je dirais que le livre est aussi une nourriture essentielle, parce que on s'évade, on s'éloigne, on nourrit sa propre imagination. Le fait de partir en voyage avec un livre, ça vous nourrit vous-même. Et on n'a pas l'impression... évidemment, ce n'est pas la même nourriture que du pain, du légume, une viande, etc., sans doute. Mais est-ce que ce n'est pas important aussi d'avoir une nourriture spirituelle, d'avoir une nourriture philosophique, d'avoir une nourriture poétique, d'avoir une nourriture émotionnelle, finalement, pour se tenir sur ses deux jambes? Moi, ça me semble très important.
Ben, je crois que avec ces très belles choses que vous nous dites, on va en rester là. Merci Bernard Loyer. Donc vous allez rester un petit peu avec nous pour la suite de l'émission.
Avec
on va
plaisir.
Parler d'autres choses. Vous pourrez aussi intervenir, hein. Il n'y a pas de problème. Mais bon, vous nous avez dit des choses très intéressantes sur tous vos métiers, aussi bien celui d'auteur, de naturaliste qui partage ses connaissances, que de libraire. Un métier que vous avez l'air de faire avec beaucoup de passion. Donc je rappelle les deux livres dont on a parlé, et puis la série de livres naturalistes, mais les deux livres les plus récents que sont vos romans. Donc le dernier, Pour t'emmener ailleurs, hein, qui est un livre de voyage, qui nous parle du voyage. Et celui d'avant, le roman d'avant, L'hiverne, qui nous parle beaucoup plus, à la fois c'est un roman historique et puis de la nature, il y a une présence importante de la nature. Voilà, ben, merci pour toutes ces choses que vous nous avez dites et toute cette nourriture que vous nous avez offerte. Voilà, on passe un peu de musique et puis on continue notre programme.
Des fois je m'arrête sur une aire d'autoroute et je perds mon temps avec les gens qui dévorent leur casse-croûte, qui font leurs étirements. Je m'assois dans l'herbe et je coupe mon téléphone, je regarde autour de moi. Petit à petit, je suis plus là pour personne, plus discret qu'un bout de bois. Je me fais des films avec les gens qui passent, les voitures à rabord. Vacances, divorces, mutations, pas joie. On était bien dans le nord. Deux amoureux dans une Clio, bleu ciel, ils ont pas l'air au mieux. Dans l'habitacle, elle est où l'étincelle? La petite flamme dans leurs yeux. Je prends pas de place et j'aime bien. Je suis un peu comme une vache qui regarde passer les trains. Et j'aime bien. J'attrape au vol des gros mots, des mots doux, des morceaux d'engueulade. Ça fait souvent quand je les mets bout à bout, des histoires improbables. Il m'a collé pendant au moins une heure, il passera pas l'hiver. Dans leur sandwich, ils mettent une tonne de beurre, mais je me laisserai pas faire. Je prends pas de place et j'aime bien. Je suis un peu comme une vache qui regarde passer les trains. Et j'aime bien. Les filles, y en a pour tous mes goûts. Je m'imagine en ménage. Celle-là, j'aime bien les petites mèches dans son cou. Et à la différence d'âge, je m'attache quand même et je lui trouve un prénom. Des études pas banales. Sans plus tarder, je nous achète une maison. Deux mômes, c'est déjà pas mal. Je prends pas de place et j'aime bien. Je suis un peu comme une vache qui regarde passer les trains. Pas de place et j'aime bien. Je suis un peu comme une vache qui regarde passer les trains. Et j'aime bien.
Notre émission Les Livres à la Parole. Et donc là, c'est le moment où on parle de coups de cœur de libraire. Alors, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est qu'il y a deux coups de cœur de deux libraires différents qui ne se sont pas, je dirais, entendus, mais qui m'ont proposé des livres qui viennent du Japon, qui sont écrits par des Japonais. C'est très curieux. Donc, la librairie Jaubert à Riez nous propose un livre de Keigo Higashino, alors je prononce sûrement très mal, publié chez Actes Sud, qui s'appelle La maison où je suis mort autrefois. Voilà, donc, alors, C'est une histoire. Je vous lis la présentation. Hein. Sakaya Kurahashi, alors là, c'est pire que tout, va mal. Mariée à un homme d'affaires absent, mère d'une fillette de 3 enfants qu'elle maltraite, elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Et puis, il y a cette étonnante amnésie. Elle n'a aucun souvenir avant l'âge de 5 ans. Plus étrange encore, les albums de famille ne renferment aucune photo d'elle au berceau, faisant ses premiers pas. Quant à la mort de son père, elle reçoit une enveloppe contenant une énigmatique clé à tête de lion et un plan sommaire conduisant à une bâtisse isolée dans la montagne. Elle se dit que la maison recèle peut-être le secret de son mal-être. Voilà. Donc, je continue pas tout ça, mais la vie de Pascal de la librairie Jaubert à Riez est le suivant. Mon avis. Envoûté, voilà le premier mot qui me vient à l'esprit après avoir refermé ce magnifique roman. Déjà, ça fait du bien de lire un roman japonais, non ? D'autres lieux, d'autres continents, d'autres vies, c'est enrichissant, intellectuellement, et ça peut donner une autre vision, une autre sensibilité. Vous allez vous retrouver dans une maison très étrange, envoûtante, captivante, jusqu'à ses moindres recoins. Comme les deux principaux personnages, vous allez avoir l'envie de pousser une à une les portes de toutes les pièces pour découvrir des mystères enfouis. J'ai aimé, et c'est paradoxal, la simplicité du style, car les mots vont droit au cœur, efficacité redoutable. Voilà, on parle de style aussi de la part de ce libraire. Il y a aussi quelque chose, à la fois la découverte, cette nourriture, parce qu'on parle d'autres mondes, de continents. Je pourrais même vous dire que ce roman aurait pu se trouver dans une collection autre que dite noire. Il plaira autant aux amateurs de belles histoires qu'à ceux qui lisent des romans policiers. Un gros coup de cœur, une belle découverte pour moi. Je vous tiendrai au courant de mes futures lectures sur cet auteur. Voilà, ça c'était la proposition donc de Pascal de la librairie Jaubert à Riez. Alors, on a une autre proposition d'Isabelle Maloberti de la librairie Le Petit Pois à Manosque, qui propose elle aussi un livre d'un autre japonais qui s'appelle Le Restaurant de l'Amour Retrouvé, Le Restaurant de l'Amour Retrouvé d'Ogawa Ito. Donc traduit du japonais par Myriam d'Artois Ako aux éditions Piquier. Hein, le premier, c'était chez Actes Sud. Voilà, brièvement l'histoire. Une jeune japonaise vit dans une ville de Japon avec son petit ami indien. Il travaille dur et cache l'argent mis de côté dans l'appartement. Un soir, en revenant du travail, la jeune femme, qui est la narratrice, retrouve l'appartement vidé. Tout a disparu, y compris son compagnon. Elle décide alors de partir pour le village où elle a grandi et où vit encore sa mère, avec qui les relations sont inexistantes. Une fois arrivée, elle décide de ne pas baisser les bras et, avec l'aide d'un ami d'enfance, commence à créer un restaurant dans un local que lui loue sa mère, qui s'appellera l'Escargot. Ce sera un restaurant particulier, uniquement sur réservation, et la jeune femme essaiera de rassembler le plus d'informations possibles sur les personnes qui veulent venir, afin de confectionner un menu qui leur plaira, leur fera revivre des souvenirs et pourquoi pas exauceront leurs vœux. Peu à peu, ses relations avec sa mère s'enrichiront, elle commencera à mieux la connaître et ainsi à l'apprécier. C'est un beau roman qui parle à merveille de la richesse de la cuisine japonaise, qui est plein d'humanité, d'espoir, même si la fin, qui est surprenante, voit la maman mourir. La narratrice est un personnage d'une grande générosité et porte en elle une forme d'amour universel. Voilà, alors, j'ai un bout à vous lire. Sur ce fameux restaurant L'Escargot, dans mon esprit, je voyais très clairement ce que serait l'escargot. Dans ce restaurant un peu particulier, on ne servirait qu'une table par jour. Eh, faut vivre, hein. Au plus tard, la veille du repas, je rencontrerais les convives ou alors nous communiquerions par fax ou par courriel, et je leur demanderai ce qu'ils souhaitaient manger, la composition de leur famille, leur espérance ou encore leur budget. J'établirai le menu sur la base de ces informations. Tard le soir, on entendait le bruit du karaoké et les conversations du bar Amour tout près de là. Donc, dans la mesure du possible, le dîner commencerait vers 18 heures. En accord avec le nom du restaurant, je souhaitais que mes hôtes savourent leur repas en prenant leur temps. Alors, il n'y aurait pas de pendule, j'utiliserais un minuteur de cuisine quand j'en aurais besoin. Comme l'odeur de la fumée altérait la saveur des mets, le restaurant serait entièrement non-fumeur. Et comme je voulais qu'on entende les bruits de la cuisine et la présence dehors des oiseaux et des animaux sauvages, il n'y aurait pas de musique. Lorsque je fermais les yeux, l'escargot semblait prêt à appareiller immédiatement en douceur. Voilà un extrait donc de Le restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito, traduit du japonais par Myriam D'Artois-Aco aux éditions Piquier. Et donc ça, c'était un coup de cœur proposé par Le Petit Pois avec Isabelle Maloberti à Manosque. Voilà, ça c'était donc nos deux coups de cœur. Un peu de musique, un peu.
Oui.
Peut-être un escargot qui passe. Ça va être long si c'est un escargot qui passe.
Je me suis fait tatouer dans le dos, en tout petit, là, tout en bas. Je me suis fait tatouer dans le dos, un séquoia. J'ai pas peur qu'il s'épanouisse sur ma peau, que son feuillage m'envahisse de bas en haut. Je voudrais sentir en plein été s'arroser le long de mes bras, être à l'abri des jours de pluie. Je me suis fait tatouer dans le dos, en tout petit, là, tout en bas. Je me suis fait tatouer dans le dos un séquoia. Son branchage et mon ossature ne feront qu'un. Déploierons nos envergures plus haut, plus loin. J'aurai le vent dans ma futaie, des nids d'oiseaux dans mes cheveux, quelques nuages au coin des yeux.
Donc c'était une chanson de Presque Oui, et là je voulais parler d'une petite maison d'édition qui s'appelle Presque Lune. Voilà, comme quoi les choses se... Alors c'est une maison d'édition qui est née dans notre région et puis qui se trouve désormais en Bretagne. Donc c'est une maison d'édition qui fait des choses assez intéressantes, particulières, hein, on aime ou on n'aime pas, mais qui fait en particulier des romans graphiques, littéraires. Et là, il publie un livre qui vient de sortir et qui s'appelle, donc qui est paru le 14 février, donc c'est maintenant, il sort, Aloïs Nebel, de Jaroslav Rudis et Jaromir 99. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais donc c'est un roman graphique. Alors, comment se présente cette petite maison d'édition? Je vous lis leur présentation. Contrairement aux apparences, Presque Lune n'est pas à prescrire aux enfants. Sous ses airs chafouins, elle révèle dans ses livres les faces cachées de son microcosme démesuré, parfois déphasé, aux contours absurdes, cruels ou ironiques. Mais il en ressort toujours une matière à penser sur le monde et ses quartiers. Pouponnière créative où braillent les ardeurs artistiques, les livres au graphisme étonnant seront façonnés avec soin. C'est vrai qu'ils ont des livres qui sont intéressants, il y a un vrai travail graphique et c'est vrai que c'est des livres aussi qui interpellent, quoi, qui sont sujets à interrogation et à réflexion. Donc ils ont deux collections, Les Lunatiques, face insolite et insolente où se mitonnent des œuvres de littérature aux accents singuliers, et puis Lune froide, hein, dans laquelle vient de paraître le nouveau, là, face piquante où s'esquissent en son sein des romans graphiques, littéraires, intimistes ou documentaires. Voilà, petite maison d'édition qui a présenté ses livres au Festival d'Angoulême, là, puisque bon, c'est aussi le monde de l'édition des livres et des romans graphiques, quoi, hein, en plus de la BD. Voilà, donc Presque Lune, petite maison d'édition bretonne aujourd'hui, après avoir été provençale, puisqu'elle était à Saint-Julien, la Verdière, tout près de Manosque. Voilà, donc, et ben c'était après nos coups de cœur, c'était notre petite présentation. Un peu de musique, quelques minutes.
Il pleut si peu, le jour éclate en gouttes sèches, linceul de poussière. Il pleut si peu, terre écarlate, un vent de feu. Thank you.
Voilà. Donc, c'était encore presque oui, hein, après avoir parlé de la maison d'édition Presque Lune. Donc, on est arrivé au bout de notre émission, hein, où notre invité principal, c'était Bernard Loyer. Merci encore, Bernard, de tous ces mots que tu nous as dit. Alors là, on passe à ce que j'appelle toujours droit d'auteur, c'est-à-dire je sors, c'est la pub. Hein, donc, vous pouvez, l'émission est finie, vous pouvez éteindre votre radio avant les infos. Et c'est pour parler des éditions Parole, donc dont je suis l'animateur. Et donc, je voulais parler un petit peu des dernières nouvelles de la maison d'édition. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a toujours les soupeaux livres, donc nos séries de soupeaux livres qui sont des veillées au cours desquelles tout le monde peut lire, compter, dire, raconter. Chacun peut venir. On peut rencontrer certains de nos auteurs et d'autres. Hein, voilà. Donc, la prochaine soupeaux livres, c'est samedi 15 février. Donc, ce samedi à Riez, à la salle, à grande salle multi-activité, donc samedi 15 février à 18h30. Ensuite, la prochaine sera le 14 mars à Tourrette, c'est à côté de Fayence, dans le Var. Ensuite, il y en aura une un peu plus tard, elle n'est pas marquée sur ma liste parce qu'elle vient de tomber, à Aubagne, ça sera le 21. Ensuite, on sera à Valence, dans la Drôme, le 28 mars. Ensuite, les soupes d'après, ça sera le 11 avril, Moinsartou. Ensuite, ça sera le 26 avril à la Palue-sur-Verdon. Et on sera encore plus dans la montagne le 3 mai à Blieux. Je ne sais pas si vous connaissez Blieux, très bel endroit au pied des montagnes là-bas. Et c'est toujours très intéressant parce qu'il y a aussi dans ces coins perdus des gens très intéressants qui en connaissent un rayon sur le livre, parce qu'on a en particulier à Blieux un ancien directeur de l'école Estienne, donc qui est l'école du livre et des arts graphiques, et qui en connaît un rayon sur les livres, le papier et la fabrication. Voilà, ça c'est les prochaines soupes. Sinon, il y a un événement particulier. Vous savez que 2014, c'est les 10 ans des éditions Parole, et on a le projet depuis longtemps de faire quelque chose. Tout le monde m'a dit, il faut faire quelque chose. C'est comme pour les supermarchés, il faut fêter le premier 10e anniversaire. Donc voilà. On voulait construire une maison avec des livres. On avait fait un essai à la fête du parc dernier de construire une maison en livres secs, c'est-à-dire comme les murs en pierre sèche, sans utiliser de liens. Et donc, on construira lors d'une prochaine fête du livre du Verdon, qui aura lieu à Aubs les 30 mai, 31 mai et 1er juin. Donc, ça va être une grande fête du livre, dont on n'est pas les seuls organisateurs. Hein. Il y a le libraire, il y a la bibliothèque, il y a la mairie, il y a le parc du Verdon, il y a un certain nombre d'associations qui ont constitué un espèce de groupe de pilotage pour cette fête. Cette fête aura lieu sur 3 jours. Le vendredi, on essaiera d'impliquer les scolaires et les écoles en particulier. Et puis, donc, il y aura des ateliers. Il y aura des ateliers d'écriture, des ateliers de pâte à papier, des ateliers de dessin, de calligraphie, différents ateliers de ce type. Ensuite, il y aura des spectacles qui sont issus de livres, hein, des spectacles qui sont issus de livres, des projections de films qui sont soit issus de livres, soit sur le livre. Hein, on aura un documentaire sur un éditeur qui est donc celui qui animait Actes Sud. Voilà, on aura un certain nombre de choses comme ça. On aura aussi des balades littéraires, c'est-à-dire des gens qui emmèneront d'autres pour leur montrer des choses ou leur dire ou leur raconter des choses. On aura évidemment un paquet d'éditeurs et leurs auteurs. On aura entre 10 et 20 petites maisons d'édition avec des auteurs venus d'un peu partout. Enfin, on essaye d'en inviter de partout. Et on aura des tables rondes pour parler des métiers du livre, hein, que ce soit justement des problèmes qui peuvent se poser aussi bien dans la librairie, dans l'édition, des attentes des lecteurs, etc. Et des conférences, un certain nombre de conférences sur Giono ou sur d'autres. Voilà. Et donc, ça sera le 30 mai, 31 mai et 1er juin. C'est en train de se construire, mais ça va être une fête. On voulait que ça soit très vivant, ce qui n'empêchera pas qu'il y ait effectivement des tables avec des auteurs qui signeront leurs livres. Mais ça sera plus vivant que ça. Ce ne sera pas uniquement des auteurs troncs qui attendent que les gens veulent bien venir vers eux. Là, on essaiera de faire quelque chose de plus vivant, faire des lectures, etc. Voilà. Ensuite, concernant les éditions Parole, je regarde parce que l'heure tourne. Il y a un certain nombre de livres qui vont paraître cette année. Le plus proche qui va sortir s'appelle « En attendant la pluie ». Alors, c'est un livre qui a été inspiré à Éric Schultes, dont on a déjà publié « Marseille rouge sang », qui est des nouvelles noires sur Marseille. Et là, c'est une nouvelle qu'il a écrite. Éric travaillait à Digne, et la ville de Digne est jumelée avec une ville du Japon qui s'appelle Kamaishi, une ville qui a été frappée de plein fouet par le tsunami du 11 mars 2011. Et Éric est allé là-bas et a été bouleversé par ce qu'il a vu. Il a écrit en revenant une nouvelle qui s'appelle « En attendant la pluie ». Alors cette nouvelle, on l'édite. Et surtout, on a voulu faire un livre qui soit une passerelle entre les deux pays. Donc on a une traduction en japonais. Donc on a le texte en français, le texte en japonais. Alors, comme vous le savez peut-être ou pas, le japonais s'écrit dans l'autre sens. Hein, c'est-à-dire on écrit de droite à gauche, mais aussi de haut vers le bas. Donc les lettrages sont des lignes qui sont posées dans l'autre sens dans les feuilles de papier. Ça fait un livre très curieux. Et au milieu, on a une série de d'haïku qui sont des tout courts poèmes selon un art très particulier. Et puis, on a surtout des dessins des enfants d'un centre aéré de la ville de Kamaishi. Donc, c'est une espèce de travail collectif pour, je dirais justement, nous faire mieux connaître ce pays et faire une passerelle entre le Japon et la France. Voilà, En attendant la pluie, qui paraîtra à la fin du mois et qu'on lancera le jour de l'anniversaire de ce terrible tsunami. Ensuite, 2014, c'est le centenaire de la guerre de 14, mais c'est aussi l'anniversaire du démarrage de la guerre d'Algérie. 1954, et là on publiera deux livres différents sur la guerre d'Algérie, enfin sur l'Algérie et la guerre. Un qui est écrit par la femme d'un appelé, qui s'appelle « Trois jeunes appelés dans les Aurès », donc de Sophie Affieri. Donc cette femme, son père a fait la guerre comme beaucoup d'appelés d'Algérie, et elle a été très fortement marquée au point de choisir de disparaître peu de temps après. Mais il a laissé une grande série de photos derrière lesquelles il notait des choses. Et c'est à partir de ça qu'elle a reconstitué trois nouvelles. Hein, et il y a une préface de Benjamin Stora, puisqu'elle avait trouvé dans un livre de Benjamin Stora une photo de son père. Voilà. Et en contrepoint, on a un livre d'une femme algérienne, Soumia Amar Kodja, qui s'appelle « De si beaux ennemis ». Ce sont aussi des nouvelles qui font un pont aussi entre les deux côtés de la Méditerranée. Parce que cette femme, qui était professeure de français à l'université d'Alger, elle a dû fuir l'Algérie au moment des combats et des menaces islamistes. Et donc, elle est réfugiée en France. Voilà, on aura un autre livre qui s'appelle « Le prix de la liberté », le prix de Pierre Souhaité, et qui est un roman historique aussi, qui décrit la remise en esclavage des Noirs par les troupes de Napoléon en 1802 en Martinique. Quoi. Un drame épouvantable de notre belle histoire de la République. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On approche de la fin de cette émission. Donc merci à Odile de nous avoir accompagnés. Merci encore à Bernard pour tout ce qu'il nous a dit. Et puis donc on rappelle, c'est son dernier roman « Pour t'emmener ailleurs » et le précédent « L'hiverne », donc deux romans. Et puis il y en a un, il nous a expliqué qu'il y en avait un qui était en cours. Donc on en reparlera quand il sortira. Puis il a plein d'autres idées, je crois que voilà. Et puis si vous voulez le retrouver, on le trouve à la librairie Le Poivre d'Âne à Manosque. Voilà, merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une faute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour l'avertir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys ou fleurs d'oranger.
Je viens t'expliquer pourquoi on m'appelle Papa Style. Je dis yes papa, je passe et comme ça et dis-toi, même ça stèle au-dessus de moi, on grave à ces deux mollets.
Réveillon, rendez-vous vendredi à partir de 15h.
RFI.
Il est tout juste